Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique l'association de la semaine. Aujourd'hui, je reçois l'association Santé du Mantois avec son président Gérard Rex et Maurice Martin qui est membre du bureau. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par présenter cette toute nouvelle association qui a été créée ces dernières semaines.
Oui, tout à fait. Alors notre association est vraiment très nouvelle puisque on s'est constitué à la fin du mois de juin. On a commencé à travailler sur les raisons pour lesquelles nous avons constitué cette association. Cette association n'est pas venue par hasard, elle est venue après la crise du Covid et après l'expérience que les uns et les autres avons pu faire des difficultés liées aux problèmes de santé et au fait qu'il y avait des manques importants pour la prise en charge des patients, aussi bien dans le secteur hospitalier que dans le secteur, disons, de ville, comme on dit. Et donc, c'est sur ces problématiques-là que nous avons voulu constituer cette association. Nous avons par ailleurs constaté que si les personnels soignants sont bien organisés dans différentes structures, notamment des organisations syndicales, si certains groupes de patients sont organisés dans des associations de maladies particulières, c'est aussi le cas, mais par contre, qu'il n'existait pas ou très peu d'associations regroupant les patients, les malades et les soignants. Et c'est l'objet original de notre association de vouloir regrouper donc ces personnes, ces citoyens en définitive, pour pouvoir peser sur le devenir de notre santé et faire en sorte qu'ils soient mieux adaptés aux besoins de l'ensemble de la population.
Moi, je voudrais dire que j'ai rejoint cette association, d'abord parce que je connais son président qui vient de parler, et puis aussi parce que j'ai eu l'expérience dans la région de Mantes d'une bataille assez exemplaire que nous avons menée contre la fermeture de la cardiologie médicale à l'hôpital de Mantes. On avait rassemblé à l'époque plusieurs dizaines de milliers de signatures dans la région, des dizaines et des dizaines d'élus, maires, etc., qui s'étaient joints à cette association, qui avait mené un combat exemplaire, que nous n'avons pas gagné. Parce que malgré tout, un certain nombre de complicités au niveau gouvernemental à l'époque ont fait que la décision de fermeture de la cardiologie a été maintenue, d'accord ? Et nous ne voudrions pas que dans cette période que mon camarade vient de décrire, il se reproduise la même chose. Or là, on est en train de faire un état des lieux et on s'aperçoit de manques criants dans le domaine effectivement de la santé dans le Mantois. Donc c'est ça l'un des principaux objectifs de l'association.
Oui, pour compléter, on a voulu, restreindre notre action, notre activité périphérique aux communes du Mantois. On a quand même vu que ça couvrait 88 communes. Et donc, comme premier point que nous avons fait, c'est nous avons écrit aux 88 maires de ces communes pour leur demander, pour leur dire que nous existions, pour leur dire que nous mettions notre travail à leur service, pour aider leurs administrés à exprimer leurs besoins, les manques surtout, et que nous étions à leur disposition pour porter ces besoins au pouvoir public.
Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendriez des mairies du Mantois ?
Alors les mairies, c'est pas elles qui décident de la politique, ou très peu de la politique, des décisions. Mais par contre, elles ont le lien avec leurs administrés, avec la population. Et c'est ce lien que nous souhaitons mettre en avant pour que, à travers eux et grâce à eux aussi, puissent remonter en direction des pouvoirs publics pour organiser une sorte de pression définitive pour que des mesures soient prises, notamment, alors les manques, qu'est-ce que c'est ? C'est les déserts médicaux. Là, on a eu un exemple tout dernièrement avec un article de presse dans la ville de Bréval. Nous avons rencontré d'ailleurs la municipalité. Plus de médecins dans une commune comme Bréval, ça veut dire que des dizaines de villages autour sont touchés, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. On nous a parlé notamment des personnes âgées, etc., qui avaient des difficultés avoir un moyen de déplacement pour aller consulter plus loin ou aller à l'hôpital. Et donc, des gens qui, finalement, vont être privés d'accès de soins ou du moins limités dans leur accès aux soins. Sachant que sur cette question de l'accès aux soins, et c'est un point fort de notre, de notre association, nous indiquons que ce que nous souhaitons, c'est que la totalité de la population puisse avoir accès à tous les soins nécessaires. Or, nous avons constaté que des ONG, notamment, je crois, le Secours Populaire, avaient fait état qu'au plan national, il y avait près de 10 millions de nos concitoyens qui, peu ou prou, n'avaient pas accès aux soins de santé auxquels ils ont besoin.
Alors justement, vous parlez d'état des lieux depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez des chiffres concernant le Mantois sur la situation actuelle au niveau médical par rapport au nombre de médecins, de pratiquants?
C'est justement ce point-là qu'on est en train d'essayer de réaliser, d'où notre appel aux 88 élus dont on vient de parler, de façon à essayer d'avoir de leur part le maximum de renseignements sur la situation de leurs différentes communes, par exemple. Hein. Moi, j'habite à Follainville-d'Ennemont, par exemple, où un cabinet médical a été ouvert l'année dernière, notamment trois médecins généralistes, donc tout le monde se félicite de cette initiative, bien sûr, prise par la mairie, mais en même temps on s'aperçoit que les trois médecins en question étaient en fait le cabinet de Vétheuil, qui n'a fait que se déplacer de quelques kilomètres, donc ça fait pas un seul médecin de plus dans la région, même si là ça facilite malgré tout le fonctionnement de ce cabinet médical, et c'est très important, et ben malgré tout la pénurie de médecins est patente, vous voyez, et donc on est dans cette situation-là, avec la volonté de vraiment connaître la situation. Là, on est allé à Bréval, comme on vient de le dire. On a été quand même sidéré. Le dernier médecin avait 75 ans.
Oui.
Donc, il part en retraite maintenant, ce qui est quand même largement mérité. Et il n'y a plus personne. Hein. Et on a vu qu'à Bréval, y compris une maison de retraite, par exemple, avec plusieurs dizaines de personnes âgées, il n'y a plus de médecins sur le plateau. Donc, c'est quand même assez tragique. Mmh. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on aimerait savoir et pouvoir livrer effectivement à la réflexion des élus et des autorités politiques la situation réelle à ce niveau-là. Et puis il y a tout ce qui concerne le plan hospitalier dont on va peut-être pouvoir reparler là aussi.
Bien sûr. Comment vous l'expliqueriez la situation actuelle, cette désertification médicale?
C'est le résultat de plusieurs années de numerus clausus en médecine, c'est-à-dire que les autorités n'ont pas su anticiper il y a 20 ou 30 ans le fait que la moyenne d'âge des médecins généralistes, notamment, allait vieillir, qu'ils allaient partir nombreux en retraite, ce qui est le cas actuellement, sans qu'on ait recruté suffisamment de médecins, d'étudiants en médecine pendant des années et des années. Donc le résultat, il est là maintenant et ça devient très difficile.
Oui, pour compléter sur le numerus clausus, c'est une façon de fonctionner qui a été mise en place en 1971, donc ça fait 50 ans. Et d'après les derniers chiffres que j'ai pu prendre ce matin sur Internet, sur, par exemple, l'année dernière, sur 58 000 étudiants inscrits, 40 000 ont été recalés. C'est-à-dire seulement 18 000 ont été pris. Alors que, évidemment, il y avait bien entendu des étudiants qualifiés qui auraient pu faire. Et on a calculé, c'est pas moi qui l'ai calculé, mais que depuis la mise en place de ce numerus clausus, 60% de médecins, il y avait 60% de médecins en moins en 1990. Par rapport au début de 1970. Donc, on voit bien, voilà. Mais il faut dire, pour compléter sur cette question du numerus clausus, qu'il a été supprimé officiellement, du moins l'appellation numerus clausus a été officiellement supprimée par l'Assemblée nationale en 2019, pour rentrer en application en 2020, mais il y a d'ores et déjà des controverses qui expliquent que, en fait, même si le mot numerus clausus a disparu, il n'empêche que la sélection se fera quand même d'une autre manière, et notamment par le nombre de places qui vont être limitées dans les universités, dans les CHU, dans les universités, et qui seront définies par les ARS. Et donc, beaucoup, et il y a des voix qui s'élèvent, notamment, je vais vous dire lesquelles, pas des moindres, puisque, par exemple, le doyen de la faculté de médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin dit: c'est faux de dire que le numerus clausus est supprimé. Le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg précise, il faut dire les choses, ne pas mentir aux jeunes et à leurs familles. On supprime la sémantique numerus clausus, mais on va garder le principe de sélectivité et de mesure des besoins dans les territoires. C'est-à-dire, ce sont les ARS qui, en fait, vont faire le numerus clausus sans le dire.
Bon alors, le but de l'association, c'est de relier les deux parties, à savoir d'une part les soignants, le personnel hospitalier et d'autre part les patients. Concrètement, par quel moyen vous allez pouvoir faire ça?
L'idée nous est venue, en fait, le 16 juin, à la manifestation qui s'est déroulée devant l'hôpital de Mantes, au moment où les soignants se battaient pour obtenir les revendications qui ont été négociées par le fameux Ségur de la santé. Et donc, nous y sommes allés comme syndicalistes. Et là, on a rencontré effectivement les infirmières, le personnel médical, les soignants, la population qui soutenait. On s'est dit, tous ces gens qui sont rassemblés dans la rue à l'occasion de cette manifestation, de plusieurs centaines de personnes autour de l'hôpital, pourquoi ne pas essayer effectivement de les regrouper de telle sorte qu'on puisse avoir une action commune sur les thèmes qu'on vient de développer. Donc c'est ça, on a le contact avec des organisations syndicales, avec des associations d'infirmières, notamment, et on va essayer de fédérer un petit peu ces initiatives pour agir dans le même sens, une fois collecté un maximum de renseignements sérieux sur l'état réel de la situation.
Et concernant le plan hospitalier que vous évoquiez tout à l'heure, bon, on en est où?
Alors, là, il faut déjà faire un petit bilan du plan Ségur.
Bien sûr.
Le plan Ségur, d'une part, l'argent qui a été donné aux soignants, mais il faut dire tout de suite que ce n'est pas ce qu'espérait l'immense majorité des soignants, puisque ça n'a même pas permis de rattraper le salaire moyen des soignants au niveau européen. Les internes ont été revalorisés, ils vont toucher le SMIC. Alors quand on connaît les heures de travail des internes et le travail qu'ils font pour le tenir les hôpitaux, c'est quand même le minimum qu'ils puissent toucher le SMIC. Bon bref, concernant les intérimaires, c'est aussi un des gros plans du Ségur de la Santé. Ils ont décidé de ne plus payer autant les intérimaires. Mais pourquoi y a-t-il autant de médecins intérimaires? Il faut se poser la question. C'est justement lié à l'ensemble des politiques qui ont été menées toutes ces dernières années, qui conduisent au fait que c'est l'hôpital privé qui est favorisé, et donc il y a un flux des praticiens vers l'hôpital privé, et donc des manques de praticiens dans l'hôpital public. C'est le cas ici à Mantes-la-Jolie, et ce n'est pas en s'attaquant aux médecins intérimaires, qui sont pour l'instant essentiels au fonctionnement des établissements. Par exemple, il y a un directeur d'hôpital qui déclarait dans la presse dernièrement « La loi a beau interdire, donc la nouvelle loi que fait le ministre Véran, la loi a beau interdire que je ne paye pas autant pour un médecin intérimaire, mais je n'ai pas d'autre choix, sauf le choix de fermer mon bloc opératoire. » Donc voilà, c'est la situation. Après, sur la question toujours du Ségur de la Santé, ils ont décidé de donner 19 milliards d'investissements. Alors regardons un peu le détail de ces 19 milliards d'investissements. Il y a 13 milliards qui seront pour la reprise de la dette. Reprise de la dette qui elle-même est le produit d'une politique qui a été mise en place depuis les années 2000 avec les nouvelles lois qui sont mises en place. Et c'est une dette qui, selon nous, ne devrait pas exister et qui aurait dû être épongée et même, éteinte sans même qu'on en parle davantage. Donc déjà, 13 milliards vont être donnés, il reste 6 milliards. Ces 6 milliards vont être étalés sur 5 ans. Comment? Soit, si on compte bien, 1,2 milliard par an. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces 1,2 milliard? Il faut renouveler le matériel, il faut améliorer les bâtiments, il faut développer le numérique. Bon, indéniablement, ça va être beaucoup trop peu pour l'ensemble des hôpitaux, et notamment pour le nôtre.
Et autre chose, comment faire pour attirer les pratiquants, les médecins dans la région du Mantois? On parle notamment des maisons médicales. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous avez donné l'exemple de ma commune tout à l'heure. Là, effectivement, la mairie avait bien fait de prendre cette initiative. Ça a permis de regrouper. Il y a un kiné, il y a une psy, etc. Et trois médecins généralistes qui sont venus. Mais je répète, ils sont venus de Vétheuil.
Ouais.
Voilà, donc c'est pas des médecins nouveaux quand il y a dans la région. Nous, on pense qu'effectivement, ça peut être une bonne chose que les communes facilitent l'implantation de médecins en leur permettant d'avoir des locaux, avec des loyers relativement modérés, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais cela dit, ça ne crée pas, une fois de plus, de médecins supplémentaires, d'accord, la plupart du temps. Et le meilleur moyen pour les attirer, entre guillemets, c'est effectivement de pouvoir offrir ce type de conditions, si vous voulez, pour leur installation, notamment pour les jeunes, ça pose pas de problème. Mais le problème, c'est la pénurie de base dont on a parlé tout à l'heure.
Bien sûr.
S'il n'existe pas, il n'existe pas.
Oui.
Donc après, c'est une rivalité entre les différentes communes qui font de leur mieux pour se vendre, entre guillemets. Bon, ça devrait pas se passer comme ça, si vous voulez. Voilà. Donc les communes qui prennent ce genre d'initiative, ben, on est tout à fait pour, mais encore faut-il qu'il y ait des médecins qui puissent être présents, exister tout simplement, pour pouvoir s'implanter dans des situations de ce type. Hein. Voilà. Alors, on sait très bien que il n'y a pas assez de formation de médecins généralistes et que beaucoup de médecins préfèrent être salariés à l'hôpital, si je puis dire, par rapport à leur confort de vie, un salaire, disons, fixe, etc. Bon, ça peut se comprendre par ailleurs, mais il y a tout un système là qui est certainement à réformer de fond en comble.
Oui, et puis quand il y a des maisons médicales dans certaines communes, ben ça se fait peut-être aussi au détriment d'autres communes et des habitants qui sont plus éloignés, bien, donc sûr. Du coup qui sont obligés de faire un long trajet peut-être pour se faire soigner.
Bien sûr.
Oui, il est évident que la pénurie de médecins, toutes spécialités confondues, c'est le fond du problème. Tant qu'il n'y a pas de médecins, on peut toujours les éparpiller d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours des endroits où il en manquera. Donc la première des questions à se poser, c'est augmenter le nombre de médecins par spécialité, les généralistes, etc. etc. Donc ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais ceci étant dit, c'est quand même un problème de santé publique et les gouvernements se succèdent et on s'aperçoit qu'ils font grosso modo tous des politiques qui se ressemblent et qui sont des politiques qui conduisent à cette situation catastrophique par bien des aspects que l'on voit aujourd'hui.
On l'a dit, cette association est toute nouvelle. Un petit mot sur elle, sur sa structure. Vous êtes combien actuellement ?
Bah, pour l'instant, on est une quinzaine. Hein, ce qui est un premier pas. On va faire des réunions à partir du mois de septembre. Là, c'est un peu le congé, bon, donc c'est un peu plus compliqué. L'idée, c'est que les gens s'en emparent, en définitive. Hein, parce que 88 communes sur lesquels on voudrait travailler, il est évident qu'il faudrait qu'il y ait des correspondants dans chacune de ces 88 communes. Et donc, on lance un appel aujourd'hui à travers votre radio pour que des gens prennent contact avec nous et disent, voilà, sur ma commune, il se passe telle chose, il y a tel problème, il y a telle difficulté, voilà, à travers des témoignages personnels ou à travers des choses que les gens ont pu collecter. Et devenir correspondant, être en lien avec cette association. Cette association, c'est une association pour la population. Hein, il faut la concevoir comme telle. Elle aura un caractère très ouvert et elle aura la volonté de rassembler largement, donc encore une fois, la population, les soignants, etc., les malades, les futurs malades, et pour faire vraiment remonter. Donc on a besoin de tout le monde et que tout le monde se mette... C'est un outil, en fait, qu'on a voulu créer pour permettre à chacun de pouvoir peser sur ces questions de santé publique, aussi bien sur le plan hospitalier que sur le plan, disons, santé de ville. Voilà.
Alors comment fait-on pour vous contacter si on veut faire partie de l'association, si on a des informations à livrer?
Le plus simple, c'est peut-être par mail. Hein. On a un mail qui est tout simple, c'est santé du Mantois, tout attaché, sans accent sur le « et », @gmail.com. santedumantois@gmail.com. Voilà, donc là, on peut nous joindre aisément, il sera répondu immédiatement, et on pourra prendre les contacts, et nous allons faire une réunion... Le 14 septembre, voilà, exactement. Et donc, ceux qui sont intéressés pour participer à cette réunion sont les bienvenus, et on les invitera.
Ça se déroule où ?
Ça sera sur la région de Mantes. Hein.
Vous n'avez pas encore d'idée des locaux sur...
On a fait des démarches auprès des mairies pour leur demander si on pouvait disposer d'une salle pour pouvoir faire cette réunion. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas de locaux à nous, hein, c'est évident. Quoi. Donc on est en recherche, donc on lance là aussi un appel des municipalités qui peuvent mettre à notre disposition une salle dans les limites permises par le Covid, hein, voilà, pour le 14 septembre. Donc on va continuer de chercher une salle.
Et là, par rapport aux communes que vous avez sollicitées déjà pour le but de votre association, est-ce qu'elles ont été réceptives ?
Oui, on a un très bon contact hein, avec les communes qui ont commencé à nous recevoir. Et c'est très positif. Hein. Bon, bien entendu, il faut qu'on fasse nos preuves aussi. Et qu'on est une nouvelle association, donc les communes disent c'est très bien, ça paraît très bien, mais bon, voyons ce que vous allez faire. Et donc voilà, on est dans cette démarche constructive, positive. Et les communes sont, encore une fois, les municipalités sont, encore une fois, une structure pour nous essentielle, hein, pour nous permettre d'aller vers la population et que la population aussi se saisisse de cette association, comme je vous le disais tout à l'heure.
Y a-t-il autre chose à ajouter sur le sujet globalement ?
Oui, dans les statuts que nous avons mis en place de notre association, nous insistons sur un autre aspect, c'est que défendre la santé publique, ça ne peut pas se faire sans la défense de la sécurité sociale. Dans nos statuts, nous employons une formule, disons, l'association considère que la création de la sécurité sociale en 1945 est une des plus grandes conquêtes universelles de l'humanité. Et donc, nous estimons que la sécurité sociale a été déjà, par différents réformes, etc., mise à mal. Et nous souhaitons aussi intégrer à notre réflexion et à nos actions la défense inconditionnelle de la sécurité sociale, y compris son retour à ses fondements de 1945, où à l'époque, par exemple, le premier euro dépensé était remboursé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec notamment la question des dépassements d'honoraires, etc., qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas se payer ce qui est nécessaire.
Merci à vous, Gérard Rex et Maurice Martin, d'être venus dans nos studios pour parler de votre association Santé du Mantois. Merci à vous, messieurs.
Merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la réécouter jeudi prochain à 19h30. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.